sur votre radio locale, une chronique pour comprendre l'économie avec Max.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Max Deleval, bonjour.
Bonjour Laura, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, Max, on parle du refus du Sénat d'imposer les plus fortunés, et cela nous amène à réfléchir sur les politiques économiques. Pour cette chronique, on se concentre sur la politique budgétaire au cœur des politiques économiques. D'abord, quelques définitions s'imposent.
Oui, la politique économique est à la frontière entre l'action politique et la théorie économique. Par son intermédiaire, les pouvoirs publics manipulent un certain nombre d'instruments afin d'atteindre des objectifs qui sont la traduction en termes économiques de leur finalité politique. Par exemple, dans le contexte actuel, il faudrait réduire le déficit budgétaire et alléger la charge de la dette publique. Et il n'y a pas unanimité même sur ce point.
Alors pourquoi ?
La France arrive facilement à se refinancer sur les marchés. Le taux d'intérêt qu'elle paie n'est que très peu éloigné de l'Allemagne, qui est présentée comme un modèle pour certains. De plus, augmenter les prélèvements dans un contexte de ralentissement de la croissance risque de freiner encore l'activité économique et de diminuer à terme les recettes de l'État. En effet, c'est la TVA qui est la principale recette fiscale et le ralentissement de la consommation freinerait encore ces recettes.
On peut donc dire que les politiques peuvent avoir des effets contradictoires ?
Oui, c'est ce que démontre John Maynard Keynes dans la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936. Les économies de marché peuvent s'installer durablement dans un équilibre de sous-emploi. En effet, les économistes libéraux pensaient qu'en cas de chômage, il suffisait de baisser les salaires pour que les entreprises embauchent. Ceci diminue leurs coûts de production. Et un certain nombre de salariés se retirent du marché du travail, s'estimant insuffisamment rémunérés. Et ainsi, le chômage disparaîtrait. Or, c'est le contraire qui se produit. Si les salaires diminuent et le chômage n'est pas indemnisé, la consommation diminue et les entreprises n'ont pas de débouchés.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ?
Ce qui peut paraître logique d'un point de vue individuel, on dit en économie d'un point de vue microéconomique, peut se révéler contre-productif d'un point de vue macroéconomique.
Après ce petit rappel, revenons sur la taxe Zucman, qui proposait un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des foyers fiscaux, dont la fortune dépasse les 100 millions d'euros.
Oui, la mesure cible 1800 contribuables. Le rendement pourrait potentiellement atteindre 15 à 25 milliards d'euros.
Alors pourquoi le Sénat a-t-il rejeté ce projet de loi ?
L'enjeu est évidemment très politique. M. Macron pense que si la France toute seule met une taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, les gens vont gentiment rester pour être taxés. En d'autres termes, ils vont s'exiler dans des paradis fiscaux. Pour la droite, augmenter les impôts est un tabou et ce serait économiquement néfaste. Les jeunes entreprises des nouvelles technologies, dont la valorisation explose, quitteraient la France alors que nous avons du retard dans ce secteur. La France ne serait plus attractive et les investissements étrangers disparaîtraient. Nous verrons dans une prochaine rubrique les arguments opposés.
Très bien Max, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, à bientôt.
Merci, à bientôt. Pour plus de chroniques éco avec Max, rendez-vous sur le www.radiopfm.com.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, à Créteil.